les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Claudia von Hallmann, l'intime et politique, une rencontre animée par Occitane Lacurie autour du film Nuit claire de Claudia von Hallmann.
Rebonsoir à toutes et tous, merci d'être là et merci de rester pour la discussion. Donc je suis aux côtés de la cinéaste Claudia von Hallmann, de Daniel Yegi que vous avez vu dans le film, ainsi que Monique Darton, qui a monté le film, ainsi que plusieurs films en commun, notamment Le Voyage à Lyon sur lequel vous avez travaillé, et aussi La Fille de Prague sur lequel vous étiez assistante monteuse, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors pour commencer, peut-être une première question, qui m'a frappée dans le film, c'est la manière dont vous parlez de l'évolution de votre féminisme, mais surtout vous en parlez en fonction d'une variation qui a eu lieu entre la tristesse et la joie. D'ailleurs, je vous ai entendu beaucoup rire pendant la projection du film. Alors avant tout, je voulais savoir où vous en étiez. Est-ce que vous êtes plutôt triste ou plutôt joyeuse en ce moment ? En tant que féministe.
Mais même si je ne serais pas féministe, je serais joyeuse. Je veux dire, je ne comprends pas très bien cette phrase. Je peux seulement dire que vous avez vu que j'aime le slapstick. J'adore le slapstick. Alors, il y a des éléments de slapstick, surtout quand on fait une ironie de faire le travail ménager. Et bon, je ne peux pas répondre. Je souligne, c'est un film de montage, parce que rien n'était c'était tout à fait un film non linéaire, c'était un film associatif de free association, de libre association des pensées. Et alors pour le montage, c'était très difficile de trouver un rythme. Et c'est dû, grâce à Monique, avec qui j'avais déjà travaillé très très bien, qu'elle a fait un travail merveilleux d'association, d'un processus associatif des images et des sons. Merci.
D'ailleurs, en parlant de montage, on pourrait parler déjà de cette séquence où il y a ces champs contre champs entre les regards des enfants. Parce qu'avant le film, vous disiez, Claudia, que c'était un film sur la production des filles et des films. Et il y a ces moments où vos personnages se regardent, enfin vos filles et vos personnages se regardent dans les yeux. C'est un effet de montage, peut-être que...
Oui, complètement.
Ah. Bah oui, puisque c'est pas tout en même temps, oui, c'est des effets. Mais bon, Claudia dit oui, c'est vrai qu'il fallait tout faire. Moi, je voudrais poser une question au public. C'est la monteuse qui demande... Est-ce que vous êtes perdu parfois avec les extraits de films, de ne pas savoir qui a fait quoi ou est-ce que vous en foutez ?
Merci.
Ça m'inquiétait beaucoup en regardant le film aujourd'hui. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Puis je me disais, ils doivent être complètement perdus, les pauvres. Bon. Merci.
Mais j'ai fait exprès, je l'ai fait exprès, pas pour fâcher le public, mais j'ai fait exprès, très, très obstinée que je suis, de ne pas mettre les... En allemand, on dit Bauchbinde, ça veut dire la bande, comme à la télévision, comme ouais. Je déteste la télévision, mais j'ai souvent travaillé pour la télévision, mais comme je la déteste... C'est une méthode télévision de mettre, même si ce n'est pas nécessaire, de mettre à chaque seconde 1000 fois le nom du journaliste ou de la journaliste et de tous ces gens. Et je ne voulais absolument pas, je voulais que ça soit mélangé avec notre vie réelle à Paris, en vivant. Paul, Blanche et moi et Noémie vivaient ensemble dans une toute petite maison au bout de l'impasse de Monique. et Daniel vivait avec ses deux filles, Noémie et Alice, là où elle habite toujours. Et on était presque tout le temps ensemble, tous les trois et les quatre, tous les sept. Et alors, je voulais que ça se mélange avec les extraits de films qui, bien sûr, sont parfois très surréalistes, comme notre vie l'est aussi. Alors, je ne voulais pas mettre les noms des films.
Pourquoi ? Pour que ça se mélange plus ?
Oui, c'est vrai que dans ton film, dans le film tel qu'il est monté, il y a une fluidité qui fonctionne très bien. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas des extraits de films, c'est tout est relié à ce que vous, puisque le montage joue énormément, voulez raconter. Quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que je réfléchissais à ce que tu disais sur la télévision. En fait, souvent, à la télévision, mettre le nom des gens, c'est comme une espèce de valorisation. Quoi. C'est-à-dire, on a obtenu tel journaliste, hein, on a obtenu telle et telle personne connue. Et c'est une espèce d'accumulation de noms, alors que c'est complètement différent là, puisque c'est les films et la vie, quoi.
Il faut aussi dire un très très grand merci à la chef femme de lumière, Hilde Sagel, une des premières caméra femme de l'Allemagne de l'Ouest. Et j'ai fait le voyage à Lyon avec elle et trois autres films. Et là, elle faisait ça d'une manière. Elle est d'une manière incroyable parce qu'on n'avait pas d'argent et on n'avait pas beaucoup d'équipement de lumière par le manque d'argent, par le manque de payer beaucoup de lumière. Et on avait on n'avait même pas un assistant caméra. Et alors, un cinéma est obscur, c'est clair. Alors, filmer nous trois dans un cinéma obscur, c'était pas facile, sans mettre beaucoup de lumière. C'était très, très difficile. Et parfois, elle s'est dit, je n'en peux plus, c'est trop.
Et pour rester sur cette idée de l'association des images entre elles, mais aussi l'association des mots, il y a une grande place qui est laissée à la conversation dans ce film. D'ailleurs, vous parlez à la fin des choses de l'inconscient qu'on met dans les films. Est-ce que le processus de l'association de la parole était aussi de cet ordre-là ?
Oui, c'est-à-dire on répondait sur ce qui nous tenait à cœur. Chacun en avait un peu ses obsessions qui ressortent. Et donc, un mot, une attitude, un extrait de film nous engageait sur ce qui était important pour nous dans ce rapport entre avoir des enfants, faire des films, être féministe et avoir du plaisir dans la vie.
Oui, c'était absolument libre parce que je ne donnais pas des ordres, entre guillemets. C'était absolument libre et c'était, comme j'avais dit, une aventure parce que les deux amies à moi ne se connaissaient pas entre elles. Alors, je voulais faire un portrait de trois femmes qui étaient toutes les trois réalisatrices et mères et féministes. Et puis, qui avaient été actives dans le mouvement des femmes et qui avaient des enfants. Et alors, je n'ai rien dirigé dans ce sens-là, sauf donner un peu le thème chaque jour, en disant, bon, maintenant, on parle de la mémoire, ou maintenant, on parle de ce film qu'a fait l'autre, ou qu'on a fait soi-même. Mais je n'ai pas donné le sujet chaque jour en disant, maintenant, on parle de Michel Foucault ou de la théorie de je ne sais pas quoi, mais on voulait parler tout à fait subjectivement sur nos images et nos enfants. Et je voulais mettre, c'est un film des mots, des paroles, des images, mais aussi c'est un film des gestes. Je voulais montrer les gestes des mains, bon, les mains, toujours les, les mains font les gestes, je veux dire, les gestes qui touchent la peau, les gestes qui touchent les cheveux, qui touchent les yeux ou les oreilles ou les mains de l'autre personne adulte ou de l'autre personne petite. Et c'était ce mélange-là des paroles et des gestes et des jeux, le jeu des enfants qu'elles ont développé, elles, parce que Noémie et Blanche, qui avaient 4 ans et 9 ans, nous ont vécu ensemble. Et alors, les enfants faisaient ce qu'elles voulaient.
Oui, parce que dans vos films, je pense aussi à La femme à la caméra, la question de l'amitié et de l'élaboration d'une pensée à partir du cadre amical, c'est quelque chose de très important, il me semble, pour vous, que la recherche des images se fait aussi dans la relation entre les personnes, dans le fait de rire ensemble, de manger ensemble, de construire quelque chose. Yeah. La parole est évidemment ouverte au public également. Si...
Sur quelle durée tu as fait ça ? C'était une semaine, ou vous vous êtes rencontrés plusieurs fois ?
Je répète peut-être la question sur combien de temps la durée du tournage ?
Pas longtemps, c'était 2 semaines. Il y avait Pâques. Les filles françaises ne connaissaient pas colorier les œufs. On ne connaissait pas ça ici.
C'est pas parce que mes filles connaissaient pas que ça veut dire que toutes les filles françaises ne connaissaient pas ça.
L'ancienne génération, elle était dramatique. Vous avez décrit très bien, filmé les sentiments. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je vous découvre. Et je pense que cette nouvelle génération, il vous donne beaucoup, beaucoup de raisons. Parce que vous gardez la mémoire, en même temps avec un regard qui va. Exactement. Je n'ai pas vu vos films, je le verrai. Et quelque part, l'histoire, ça donne cela, mais ça a beaucoup de profondeur, beaucoup. Parce qu'on a vécu des mères qui était vraiment dramatique. On a vécu ces rapports, c'était vraiment exceptionnel. Vous dénoncez même ça, c'est ça que j'aime. Une cinéaste qui dénonce, ça a beaucoup d'exceptions, de valeurs, parce qu'on vit dans un monde de dénonciation, de prendre parti. Et la nouvelle génération, ça peut vous comprendre encore mieux, la nouvelle génération, je pense. Vous avez bien eu raison de l'avoir avant, c'est ça. Et voilà, c'est ça que je pense. Ça m'a plu beaucoup.
Ce qui est important, c'est vous avez vu le film, je l'ai dit seulement à la fin, Sonia, c'est un film sur une mère, un film de fiction de Paul, qui était la fille, qui était l'actrice et la réalisatrice. Et c'est un film sur, qu'on a choisi parmi ses autres films, sur... la relation entre une fille adulte et une mère qui commence à être malade de la démence, de la maladie d'Alzheimer. C'était un chef-d'œuvre, un film très, très impressionnant que Paul a réalisé. Et j'aime beaucoup le surréalisme et en même temps le rire et la tristesse en même temps de ce film.
D'ailleurs, vous le soulignez à un moment pendant le film, la question de la transmission des luttes féministes ou de la mémoire, en tout cas, d'un certain nombre d'enjeux féministes. Et c'est d'ailleurs une inquiétude que Paul Baillargeon, donc du coup la troisième cinéaste qui est présente, soulève. Elle dit « qu'est-ce qu'on a donné à nos filles ? Qu'est-ce qu'on a transmis à nos filles ?» avec une espèce de d'inquiétude comme ça, que le fil soit rompu. Enfin, comment vous pensez cette question-là au moment du film et aussi aujourd'hui.
J'étais étonnée qu'elle pose cette question alors que les enfants, les filles sont encore petites. Mais en même temps, cette question de la transmission, je suis en train d'y réfléchir là, pour un prochain film que je vais faire, elle est compliquée. Parce que par exemple, mes filles sont féministes, mais pas du tout comme moi. Enfin, elles n'ont pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes critiques. Elles sont beaucoup plus critiques. Enfin, elles sont comme les féministes d'aujourd'hui qui ne laissent rien passer. Enfin, c'est très, très différent. Et puis, sans penser à ce qu'elles peuvent dire de leur mère qui n'a pas toujours été parfaite, quoi. Donc, c'est compliqué, ces histoires de transmission, parce que on croit transmettre et en fait, heureusement, que chacun prend cette transmission à sa manière et ça devient autre chose.
Ma fille a quitté la salle, alors... ma fille n'est plus là. De toute façon, elle n'aimerait pas répondre du tout.
Elle avait peur que tu l'appelles.
Non, elle ne voulait. Non, je savais qu'elle ne voulait pas parler. Mais je ne savais pas qu'elle est partie. Mais c'est très bien. Je veux dire, oui, ma fille aussi, que les filles ou les garçons aussi d'autres amis, peut pas très. Très bien répondre sur cela parce que directement en tant que militantisme, activisme et tout, ça se trouve tout à fait différente maintenant, je trouve. Je suis sûre, ma fille s'appelle, qu'elle est une féministe et qu'elle lutte pour cela, mais autrement que nous. Autrement que nous et aussi que... Elle n'aime pas du tout qu'on devient trop maternelle, qu'on devient, comment on appelle ça en français, qu'on devient trop...
Protectrice.
Oui. Elle n'aime pas du tout ça. Alors, mais j'ai enseigné 22 ans dans une université de sciences appliquées, dans le département design, le cinéma, et j'étais... parfois très très heureuse avec les étudiantes femmes, avec les étudiantes qui étaient très très réveillées. Sans que je dise un mot, je veux dire, elles étaient déjà peut-être, elles ne se nommaient pas, je suis féministe, mais elles étaient très très bien.
Vous vouliez...
Non, on sent dans le film, je pense, que Paul Baillargeon, donc la Québécoise, toutes les femmes québécoises avaient un passé de féministe beaucoup plus fort que chez nous, oui, à l'époque, oui. et avant. Alors, elle parle de sa mère, mais sa mère, c'était une femme au foyer. Mais on sent chez Paul une virulence, une violence plus grande qu'elle y a ça. Et bah, puisque vous avez parlé de ses filles, moi je connais sa fille aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle elle est féministe, mais il n'y a pas cette violence, il n'y a pas. Donc on ne peut pas généraliser sur qu'est-ce que ses mères ont transmis, je ne sais pas, là-dessus. Bah ouais, chaque enfant prend, jette. Et module.
Et Paul, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, elle est aussi une peintre et dessinatrice et très très grande poète. Le poème qu'elle a fait, au début c'est sur les femmes qui vivent du Valium, c'est un poème qu'elle me raconte, elle, c'est un poème d'elle. Et c'est horrible, mais... Elle écrit des poèmes, elle est une dessinatrice, peintre, et elle a fait un très très beau film autobiographique qui s'appelle 30 tableaux, dernièrement, enfin il y a 10 ans je pense, 30 tableaux, oui.
Parce qu'à l'intérieur de vos parcours de féministe aussi, il y a quand même des choses qui se sont jouées, puisque ce film... Enfin, vous en parlez, vous mesurez vous-même l'écart avec le début de vos carrières respectives de cinéaste. Par exemple, entre le moment où vous ne pensiez pas du tout au fait d'avoir d'enfants et puis le moment où, donc en cette fin des années 80, vous avez toutes des filles. Et c'est vrai que par rapport, par exemple, à l'intérieur de vos filmographies respectives, on sent un déplacement. Enfin, par exemple, quand on pense à Sorcière Camarade, par exemple, qui est un film... Qui date du tout début des années 70, si je ne me trompe pas, ou les films que vous avez faits au début des années 70 également, on a l'impression que là, on arrive à un autre moment de l'histoire de votre propre féminisme, sans parler de transmission entre les générations.
Oui, on change, parce que c'est vrai que quand on a 20 ans, 25 ans, on pense, enfin je veux dire, parmi mes amis et moi, on ne pensait pas tout de suite avoir des enfants. Et plus tard, la question se pose. Et donc, il faut faire un choix entre ce que préconise Simone de Beauvoir, que pour être libre, il ne faut pas avoir d'enfants, parce que c'est un poids. Et c'est vrai qu'avoir des enfants, ça prend du temps, ça prend des responsabilités, c'est une vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Moi, j'ai toujours dit, mais pourquoi les hommes, ils ont le droit d'avoir des enfants et les femmes n'auraient pas le droit ? Parce que ça, ben c'est parce que c'est aussi la question du partage des tâches. Enfin, on revient sur des questions fondamentales du féminisme qui font que c'est parfois difficile, quoi. Donc quand on a 20 ans, on s'en préoccupe pas directement. Plus tard, oui. Puis il se trouve que moi j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants quand j'en ai voulu, donc ça a pris encore 10 ans de plus. Et d'ailleurs, j'ai fait un court-métrage un peu sur ce sujet, un court-métrage de fiction, parce que c'est un truc qui m'a vraiment préoccupée pendant très longtemps.
Toujours pareil, s'il y a des...
Oui, merci pour votre film. Oui, je voudrais demander si Agnès Varda était une référence pour vous. Vous voyez les films d'Agnès Varda, c'est ça?
En tant que réalisatrice et femme, elle était, je la connaissais un peu, elle était une très grande role model pour moi, mais les films, ces films, j'ai adoré ces films, mais je ne peux pas dire qu'ils m'ont influencé directement. Mais indirectement, oui, parce qu'il n'y avait personne. Il y avait elle, il y avait Maite Seterling, qui est morte trop tôt, qui avait été actrice avec Ingmar Bergman, et après elle est devenue réalisatrice suédoise, elle aussi, qui vivait au sud de la France, qui était une amie. Il y avait en Allemagne de l'Ouest, il y avait... Nous avions étudié à quatre femmes parmi 15 autres étudiants mâles, ce qui était déjà beaucoup. Danielle, elle a dû étudier le montage parce que les femmes n'étudiaient pas la mise en scène, je pense.
Oui, tu as commencé comme oui, ça. Oui, à l'entrée de l'IDEC, c'était un peu... Le directeur Tessonneau, qui connaissait rien au cinéma, qui avait été placé là parce que je ne sais pas trop ce qu'il a fait pendant la guerre, il disait ouais bon les femmes c'est mieux montage script, si vous passez le concours vous aurez plus de chances d'être admise parce que la réalisation c'est plutôt pour les hommes. Enfin c'était comme ça. Moi j'ai toujours voulu réaliser, mais bon. Comme disait ma mère, il faut parfois savoir prendre des détours, contourner les obstacles pour arriver là où on veut aller. Donc oui, j'ai fait script et montage.
J'ai adoré les films d'Agnès Varda et son personnage à cause de sa manière de raconter d'une manière associative, elle aussi, et d'être extrêmement, en tant que photographe, des still photography. Comme elle a commencé, j'ai appris ça, de venir de se passer d'être photographe et de mettre une image après l'autre, soi-disant. J'ai beaucoup adoré ça et il y avait quelques US américaines comme Shirley Clarke que j'ai beaucoup aimé pour son portrait de John Coltrane et des films documentaires en noir et blanc. Oui, il y avait des femmes qui nous ont impressionnées, mais pas beaucoup.
Mais justement, la directrice de la photo d'Agnès Varda, Noémie David, est la première à avoir dit « je veux faire prise de vue » à l'IDEC. Ils ont dit non, elle a dit « bah si », et elle a fait prise de vue.
Oui, mais elle est rentrée, j'ai travaillé avec elle, puisque c'est elle qui a fait l'image de la fille de Prague. Ouais. Mais elle est rentrée sur titre et pas sur concours. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ça. Alors moi, j'étais aussi étrangère, parce que j'étais suisse. Mais comme je voulais travailler en France, donc je voulais passer le concours, voilà. Donc elle a pu. Non, elle n'a pas passé le concours, elle n'était pas obligée, donc elle a. Mais elle a quand même travaillé en France. Moi, j'étais un peu.
Ah oui, par exemple, pour moi, Vera Tchitilova, elle était une très grande influence. Elle avait sur moi pour son histoire des. Comment ça s'appelle en français ?
Les petites Marguerites.
Les petites Marguerites, ça, c'était. Nous l'avons montré. Nous l'avions montré en tant qu'étudiante de cinéma. Et nous étions, en Allemagne de l'Ouest, nous étions très influencés par, bien sûr, la nouvelle vague française, mais aussi très, très influencés par l'Est, par les films tchèques et polonais à l'époque, de Andrzej Wajda et tous ces hommes polonais et tchèques et hongrois, par exemple, István Szabó et tous ces gens-là. Mais oui, Vera Tchitilova a été une grande influence pour moi.
D'autres questions ? Oui.
Il arrive. Oui, non, je voulais rappeler, parce qu'en Italie, dans le sud d'Italie, où on va en été, nous, dans les Pouilles, il y a un cinéma du réel, un festival dans les Salento. Et là, il y avait, maintenant, elle est disparue depuis quelques ans, à 95 ans, Cecilia Mangini, qui connaissait bien Varda, et qui, à l'époque des années, disons, de 50, de 50, 60 à 80, elle a fait pas mal de documentaires. Alors elle, à l'époque des années 50 et 60, elle était plutôt liée à la gauche en Italie, au parti communiste. Donc elle avait fait aussi un documentaire sur le Vietnam et souvent des documentaires sur les ouvriers, sur la classe ouvrière. Et c'est quelqu'un qui était très, très connu en Italie.
Non, moi, j'étais aussi très, très... J'ai adoré Lina Wertmüller, par exemple, qui était plus âgée que nous, et Liliana Cavani. C'était les réalisatrices italiennes qu'on adorait beaucoup, nous, pour leur structure des films surréalistes et mélangée avec une critique sociale très, très forte. J'ai adoré Lina Wertmüller beaucoup.
Bonsoir, merci. C'était une merveille. Et question très simple, je ne connais pas votre backstage, votre biographie, donc est-ce que vous avez fait du théâtre, est-ce que vous avez fait de l'art quand vous étiez jeune, comment avez-vous commencé, quels ont été vos débuts, comment vous avez commencé à aborder le documentaire,
quelle est votre formation? J'ai étudié, mais très bref, l'histoire de l'art et la sociologie, mais ça m'ennuyait royalement, alors j'ai abandonné ça. Mais le passé de Hille Sagel m'intéressait beaucoup parce que Hille avait été peintre, avait étudié la peinture. Et comme ça, on s'est extrêmement bien entendu en faisant le cadre de chaque millimètre près de construire, comme on le voit dans le voyage à Lyon, de construire le cadre très très comme une peinture. Ça me plaisait beaucoup. Mais je n'ai pas fait du théâtre, mais j'ai étudié être mime, style Marcel Marceau. Et la danse et le mime classique. J'étais mime classique comme Marcel Marceau.
Et donc, vous, Daniel, vous avez fait l'IDEC, c'est ce que vous dites?
Oui, parce que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Donc, quand j'étais en Suisse, je participais à des ciné-clubs, dont où Freddy Buach de la Cinémathèque Suisse venait souvent présenter les classiques, les vieux Buñuel, les Murnau et tout. Donc, j'ai été formée par ce cinéma classique et j'ai toujours voulu faire des films. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une école de cinéma J'ai tout fait pour pouvoir y rentrer. Je me suis même mise, parce que je n'étais pas très bonne en salle, j'ai suivi des cours par correspondance de dissertation, parce qu'on m'avait dit que pour rentrer au lycée Voltaire qui préparait à l'école de cinéma, il fallait disserter, le beau est-il toujours bizarre, enfin, ce genre de questions. Bon, je m'y suis mise, et parce que j'avais vraiment cet objectif de faire des films et de passer par une école. Voilà.
Et vous, Monique ?
Moi, j'ai appris le montage sur le tas, comme on disait à l'époque, ce qui n'existe, à mon avis, pratiquement plus, parce que le passage au numérique, à l'ordinateur, a fait que le métier a complètement changé, que c'est beaucoup plus technique. C'était très manuel, le montage, à l'époque. Bon, après, j'ai fait de la vidéo aussi, mais... Donc j'ai appris sur le tard et c'était formidable cette époque de pellicule. J'adorais toucher la pellicule, regarder une image comme ça, les gestes, c'était plus physique. Bon, même si c'est formidable le numérique, je dois le dire, mais il y avait un plaisir. Et puis, la chose qui me rend vraiment triste sur le métier, c'est que quand on travaillait en pellicule, on était une équipe. Il y avait, bien sûr, la personne qui réalisait, le chef ou la chef monteuse, assistant, stagiaire. Puis tout ça était ensemble. Et puis, une famille, dirait Claudia. Exactement, une famille. C'était une famille, alors que maintenant, il faut se battre sur... du long métrage pour avoir un assistant tout le temps. Bon, j'y arrive à peu près, mais sinon on est tout seul, les assistants ils viennent, ils numérisent, ils voient rien, et puis quand on a fini le montage, on leur dit vas-y, maintenant tu sors tout ça, donc ça part au labo. Et la formation elle est où? Parce que malgré tout, un assistant monteur qui assiste du début à la fin, qui voit tout le processus de montage quand on monte 3-4 mois, comment ça travaille, comment on discute, comment le film évolue, on apprend aussi comme ça, ce n'est pas juste technique, voilà. Mais ça réduit le métier pour les assistants à quelque chose de très technique.
Tu as aussi travaillé avec de très grands monteurs et de très grandes monteuses comme Marielle Isartel, qui est aussi réalisatrice et monteuse. Oui. Donc, ça, je suppose que ça a dû aussi, à cette époque, t'apporter beaucoup.
Déjà, ça m'a apporté que grâce... Oui, puis surtout que je n'ai travaillé pratiquement qu'avec elle comme assistante, et en plus sur un film de Daniel, qui, après, a parlé de moi à Claudia, et j'ai monté Voyage à Lyon. Merci. C'est la mafia.
C'est la mafia ou c'est l'entraide féministe aussi, parce que je vous ai entendu parler lors d'une conférence, Daniel, où vous disiez que la possibilité de votre film, de la fille de Prague, ça s'était fait aussi en relation avec Claudia. Donc c'est aussi ça le féminisme, c'est de s'entraider matériellement.
Oui, c'est grâce à Claudia que j'ai trouvé des producteurs. C'est vraiment les frères Barra, notamment François Barra, que j'oublie souvent de remercier d'ailleurs. Et puis, là, pour cette journée, il disait « je pense à vous », etc. Et donc, sans Claudia qui m'a recommandé auprès de François Barra, sans François Barra, je ne sais pas si j'aurais pu produire le film.
Oui, et en même temps, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais tous les gens avaient plusieurs professions et plusieurs passions, professions et passions. Le frère de François Barra avait été peintre. François Barra est toujours un très grand intellectuel qui rédigeait le journal de cinéma.
Sa cinéma,
et qui ne peut pas être ici, mais qui est toujours un ami. Qui ne peut pas être ici aujourd'hui, mais il a les deux frères avaient fondé la société Cinéma Neuf, et c'était très très bien à l'époque. C'était très 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 intéressant et très très intelligent, quoi.
Il y a une question.
Oui. Mais aussi, non, il faut dire aussi que c'est un, dans un certain sens un drame, si on parle de des personnages perdus, de la mémoire perdue, et si on, à la fin, je dis, si on retrouve vraiment quelquefois quelque chose. Les films qu'on avait tournés en 16 mm par manque d'argent, il manquait de l'argent pour tourner en 35, alors les films qu'on a tournés en 16 mm, comme La fille de Prague ou comme Le voyage à Lyon, avaient totalement disparu de la circulation parce que les copies étaient trop mauvaises pour les projeter, et personne ne nous donnait de l'argent pour les faire restaurer et digitaliser. Alors c'était une très longue période pour Daniel pour faire restaurer La fille de Prague. Ça fait il y a 2 ans, non?
Oui, mais c'est, en fait, tu m'as donné l'exemple parce que tu as fait restaurer Voyage à Lyon. Puis j'avais envie aussi que La fille de Prague soit restaurée. Donc j'ai essayé en France, mais je ne sais pas, maintenant au Centre national du cinéma, ils ont un système. Il y a des films qui restaurent d'emblée. Mais pour les films comme les miens, qui sont plus marginaux, il fallait trouver des sponsors. Alors, des sponsors pour un film féministe des années 70, ce n'était pas évident. Donc, j'attendais. J'avais passé les épreuves qui permettaient de prétendre trouver un sponsor. Et bon, le film a été... Il y a une féministe suisse qui dirigeait le festival de Locarno et qui a pris le film pour le festival de Locarno. Donc je lui dis, mais ça serait bien de le restaurer à cette occasion. Et elle a pris ça au sérieux. Et la Cinémathèque suisse, 6 mois après, le film était restauré. Le film qui était bloqué depuis des années chez Éclair, parce qu'il y avait des dettes, je ne vous raconte pas les péripéties de production, etc. Et ben, ils ont écrit un mot, il fallait que je signe, et le film a pu sortir des laboratoires, aller en Suisse, et être restauré. Enfin, c'était un miracle, quoi. Voilà.
Les films de Maïs Etterling ont été restaurés aussi récemment, puisque vous évoquiez Maïs Etterling, et ses films ont été restaurés aussi récemment.
Ah, vrai,
oui, une très belle restauration. Il y a une question.
Non,
oui,
ça, c'est, ça, le Nuit Claire, excusez-moi, moi, cette copie ne me plaît pas, bien sûr, parce que les couleurs ne sont pas bien, mais il manque de l'argent. C'était tourné sur U-matic high bench, avec la énorme caméra Ikegami, qui à l'époque était le plus grand qu'on puisse louer, et très cher à louer. Quotidiennement. Et alors, U-matic, on n'a même plus les appareils, même la Deutsche Kinematik à Berlin n'a pas un appareil pour montrer un appareil U-matic. On ne peut même pas le regarder, les bandes, les rouleaux.
Il vaut mieux pas les regarder parce qu'elles se sont collées. Parce que moi, j'ai encore des cassettes U-matic chez moi, mais il vaut mieux les donner à des spécialistes parce qu'elles se sont collées. Alors, les spécialistes les mettent dans des fours, ils arrivent à les décoller et à en sortir quelque chose de numérique. Pardon ?
La BNF, on a. La BNF restaure.
Ouais.
Oui, moi, je voulais revenir sur la notion de transmission. Dans votre film, bon, je suis un peu votre génération, je pense, et ce que vous disiez sur l'image de la maternité qu'ont transmis les mères, et ce que reçoivent les filles ou les fils, je pense que ça ne peut pas être juste généraliste comme ça, parce que ça dépend beaucoup du contexte social et historique. Déjà, enfant de bourgeois ou enfant d'ouvrier, ce n'est pas pareil. Et puis nous, nos parents, ils ont souvent vécu la Deuxième Guerre mondiale, ou la déportation, ou pour moi, la guerre d'Espagne. Et tout ça, c'est une transmission douloureuse, et ça compte, parce que moi aussi j'ai fait l'IDEC et j'ai tout de suite parlé de ça, enfin dans mes films. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même maintenant nos enfants, ben, c'est pas le même vécu, parce que a priori on n'a pas souffert autant que nos parents.
Ouais, c'est vrai.
parce que vous en pensez. Ça a l'air d'avoir des coups. Bon, c'est un fiasco.
Ah, c'est vrai.
Bon, voilà.
C'est vrai, je veux dire, il y a différents contextes sociaux, de vécu, de traumatisme. Ouais, moi, je sais que ma difficulté à avoir des enfants est sûrement liée à la Shoah. Donc c'est pas, les histoires sont jamais simples, mais on peut quand même dessiner certaines lignes, s'interroger, rire et parler du plaisir d'avoir des enfants.
Nous avions voulu faire un film poétique et non pas une social pédagogique.
Alors il y a une question de Brunel là-haut.
Oui, merci. J'ai une petite question de curiosité. Je voulais savoir, sur ce film particulier, quand il est sorti, où a-t-il été montré? Qui a vu ce film à sa sortie? Où est-ce que vous l'avez passé?
Vous voulez savoir la vérité ou pas? Le film n'était presque jamais montré. Et encore une fois, je dis toujours la même chose, mais je n'ai pas pu le vendre à la télévision parce que, bien sûr, je le voulais, mais même Art n'a pas pris le film. Il trouvait ça ennuyeux et toujours ces femmes qui racontent des choses. Alors, le film n'était pas beaucoup montré.
Voilà. Et en festival.
Je ne me souviens plus.
Ce n'était pas la première fois.
Non, pas la première fois. Mais peut-être la 20e fois.
Il était montré à Berlin récemment.
Ah, il était montré à Berlin, il était montré à Londres, il était montré à Montréal. Très, très bien dans l'Office national du cinéma, ORF, et dans un festival là-bas à Montréal. Il avait un très grand succès parce que Paul Baillargeon est une très grande vedette là-bas et on aimait beaucoup le film. Et oui, il a été montré maintenant dans les 5 dernières années dans les rétrospectives que j'avais. Mais à l'époque, pas beaucoup.
Mais il faut dire qu'il y a maintenant une reconnaissance de ton œuvre. Fait que des films qui ont été peu montrés sont, ces dernières années, montrés. C'est une très, très bonne chose. Donc, il faut parfois savoir patienter avant de montrer les films.
Oui, j'étais déjà oubliée, bien que je suis très jeune, toujours. Mais ça ne fait rien.
On va peut-être prendre une dernière question. Ça vous va, une dernière question?
Non.
Non? Alors, puisque l'artiste a dit non. Ah, il y avait une dame.
Allez, une dernière, Claudia.
Oui, en dehors du festival, où pouvons-nous trouver vos films?
S'il y a un éditeur DVD dans la salle.
On peut les trouver partiellement à la Deutsche Kinemathek à Berlin. Et maintenant, il y a... le cinéma Arsenal qui va restaurer ce n'est qu'un début, seulement maintenant, et le film sur Knokke, et ça a duré très longtemps de trouver de l'argent pour restaurer les copies 16. Mais oui, à la Deutsche Kinemathek, qui est mon distributeur, et chez moi, dans ma cuisine.
Il a été vendu à Mubi. Mubi, la plateforme. Voyage à Lyon.
Ah oui, Voyage à Lyon, mais je ne le savais pas.
Comment c'est possible?
C'est une bonne nouvelle, là.
C'est une bonne nouvelle. Et puis, sur Tank aussi, il y a des films. Je sais pas.
Il y a 3 films sur Mubi, mais je ne le savais pas.
Mais comment c'est possible? Parce que...
Bon, on va... on va... Merci à toutes et tous d'être restés pour écouter. Et puis, continuez à aller voir les films de Claudia pendant tout le reste du festival et cette très belle rétrospective. Merci d'avoir été là à toutes les trois. Et à bientôt dans les salles du Centre Pompidou.
Mot, la lutte continue.